Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews histoire de Timeline en partenariat avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles, évidemment. Je suis ravi, vraiment, de recevoir Xavier Mauduit pour son livre Histoire des préjugés, que voici, que voilà. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors vous êtes historien, doit-on vous présenter?
Si.
Vous êtes également animateur, etc., etc., mais il faudrait une heure pour vous présenter. Les préjugés, est-ce que c'est... est-ce que c'est péjoratif ou est-ce que ça peut être dans le bon sens?
Non, ça peut être dans le bon sens. Il y a des préjugés, vous savez, qui vont dire que les Italiens chantent bien.
Oui.
Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai, il y en a bien quelques-uns qui chantent mal. Les Suédoises sont belles. Non, le préjugé peut être positif parfois. Ça peut arriver à un préjugé positif. Nous, ce qui nous a intéressé avec Jeanne Guéroux dans ce livre, cette histoire des préjugés, c'est vraiment les préjugés qui sont méchants. Ceux qui dénigrent, ceux qui veulent faire mal. Voilà, c'était ça notre objet d'étude pour ce livre.
On doit vous poser 2000 fois la question. La différence entre un préjugé et un cliché, ce serait quoi?
Le préjugé, c'est l'étymologie même. Un préjugé, un jugement qui existe auparavant. Le cliché, ça va être plutôt quelque chose qui se construit historiquement, le préjugé aussi, de toute façon tout est objet historique, mais le cliché ça correspond plus à ce qui est des stéréotypes, hein. Et on va avoir des clichés qui vont concerner à peu près l'ensemble de ce qui nous entoure, qui correspondent à des stéréotypes, je prends les stéréotypes nationaux parce que ceux-là ils sont très clairs, mais c'est au 19e siècle où ces stéréotypes, ces clichés se mettent en place avec le français un peu arrogant, le béret, la baguette, le britannique, c'est... Voilà, avec son haute forme ou son chapeau melon, on va avoir ça. Le préjugé, j'ai envie de dire, a une histoire beaucoup plus longue. Mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir au vocabulaire dès le début, parce qu'on pourrait même parler d'idées reçues. Oui. Nous, on a écarté tout ce qui était cliché, stéréotype, parce qu'en soi, c'est pas là pour être méchant. Dire que les Britanniques portent un chapeau melon, c'est pas fait pour être méchant.
On l'entend plus, ça.
Non, bah oui, mais moins.
Mais moi, quand j'étais petit, mais je suis vieux.
Mais non. Non, le préjugé, lui, il est fait pour être utile. Il est vraiment un objet qui va servir, et le plus souvent, pour une forme de domination. Donc, c'est pour ça qu'on a écarté ce qui est idée reçue ou idée fausse. Mm-hmm. Par exemple... dire les Européens ont découvert l'Amérique. Voilà, ça, découvert déjà, grande discussion aujourd'hui autour de la notion de découverte, ça ne veut pas dire grand-chose, mais même, on sait que c'est faux, on sait qu'il y avait les Vikings qui sont passés par là, ça c'est une idée reçue.
Ça reste des Européens.
Ouais, mais y a pas... Oui, c'est vrai, ça reste des Européens, mais ce n'était pas Christophe Colomb, voilà.
Oui, non, mais... ça c'est certain.
Mais voilà, il n'y a pas une volonté d'utiliser la chose après pour imposer une domination, pareil pour les stéréotypes. En revanche, les préjugés... eux, ils sont vraiment là pour faire mal et je pense qu'en feuilletant le livre, vous avez dû vous en rendre compte. Hein.
Oui, oui.
Oh là là, ils sont terribles ces préjugés.
Bah, j'ai plein de choses à vous dire, donc ça tombe bien. Ce qui est important dans votre livre, c'est le mot histoire, histoire des préjugés. D'où ça vient? Parce qu'on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu.
Oui, bah, d'ailleurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Non mais vrai, il y a quelque chose de difficile avec ces préjugés. Bien souvent, historiens, historiennes, spécialistes d'un sujet écartent les préjugés. Oui. Bah, parce qu'ils savent que c'est faux.
Oui.
Parce que c'est faux. Donc, c'est pour eux quelque chose en marge de leur analyse. Et nous, ce qu'on a demandé avec Jeanne Guéroux, c'est de les replacer au centre de leur analyse. Et c'était vraiment, mais même pour ces auteurs, ces autrices, quelque chose qui a été très intéressant dans leur propre démarche, de réfléchir à leur propre objet d'étude. Qu'est-ce qu'on dit de leur propre objet d'étude? Donc ça, c'était la première chose. Et puis, c'est vrai que sur ces préjugés... dans la volonté de les combattre, ces préjugés qui conduisent au racisme, à l'homophobie, à la misogynie, etc., ils ont été approchés de plein de manières, souvent sociales. Et nous, ce qu'on s'est dit, ce serait intéressant de voir par l'histoire comment ils naissent, d'où ils viennent ces préjugés, à partir de quel moment on a commencé à dire cette chose-là, et puis comment ils évoluent dans le temps. Parce que c'est vraiment ça. Pour moi, la chose qui m'a le plus surpris en travaillant sur ces préjugés, c'est de se dire, je les connais tous. Je les ai déjà tous entendus, les gauchers sont maladroits, le vert porte malheur, parce qu'on ne s'est pas arrêté que sur les préjugés qui concernent des groupes humains. On les connaît. Mais comment on les connaît? D'où ils viennent? Qu'est-ce qui fait que dans mon esprit, je sais que les gitans sont des voleurs d'enfants? Je sais que c'est faux. Mais je le sais quand même. Et donc voilà, c'était cette démarche, s'appuyer sur l'histoire pour essayer de comprendre comment ça s'est construit.
Mais c'est compliqué de lutter contre les préjugés quand on a un président, par exemple, qui dit « les Français sont des râleurs ».
Ah oui, bah parce que
lui-même,
les préjugés...
il va nous le dire, notre président.
Oh, mais je pourrais vous citer plein d'exemples, hein, de nos politiques. Gardez vos nerfs. Nicolas Sarkozy face à Ségolène Royal. Bon, bah ça, c'est ce vieux préjugé, les femmes sont hystériques.
Hystérique.
Ouais, ouais. Ça va très bien se passer. Ça, c'est aussi Darmanin
c'est plus récent.
Ouais, bah, voyez, ces préjugés, en fait, ils sont sans cesse présents. Et c'est en ça que c'était vraiment très fort de les analyser, parce que on voit comment ils s'adaptent à chaque situation. Et jamais aujourd'hui un homme politique ou une femme politique va utiliser un préjugé en le verbalisant tel quel. Personne va dire aujourd'hui, oh là là, regardez, elle s'énerve, c'est normal, c'est une femme, elle est hystérique. Hystérique, jamais. Et pourtant, en le disant d'une autre manière, c'est le même préjugé. Donc
mais,
c'est
mais,
comment...
mais si, elles sont hystériques.
Mais non.
Je plaisante.
C'est une histoire passionnante, en plus, cette histoire-là.
Mais bien sûr, il y a Freud là-dedans aussi.
Il y a Freud, et puis avec l'hystérie, ça nous remonte jusqu'à l'Antiquité, jusqu'à la Grèce antique. Hein.
Ça va loin.
Vous savez, c'est cette théorie des humeurs où l'homme est constitué d'humeurs qui font qu'il est plutôt sec et chaud, alors que les femmes sont plutôt froides et humides. En gros, c'est la théorie des humeurs. Il faut que tout soit en équilibre et que les femmes sont en déséquilibre constant, ce qui explique pourquoi elles pleurent et elles ne maîtrisent pas leurs nerfs, avec ces grosses interrogations de Platon sur ce qu'est l'utérus, qu'il considère comme une sorte d'animal qui de temps en temps s'échappe et se balade dans le corps, et ce qui fait qu'elle ne se contrôle pas. Vous savez, c'est cette longue histoire des hommes qui ne comprennent pas ce que sont les règles, en fait, disons-le tout simplement, cette perte de sang.
Ou les femmes tout court.
Mais à partir de là, ils essentialisent la femme à partir de leur utérus. Et dans cette histoire-là de l'hystérie féminine, vous avez cette théorie des humeurs qui naît dans l'Antiquité, qui traverse tout le Moyen-Âge et qui commence à être mise en cause au 18e siècle, 19e siècle. Là, cette médecine commence à dire, mais non, c'est pas la théorie des humeurs. Oui, mais l'idée que les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes demeure. Donc, il faut trouver autre chose. Et là, vous avez Charcot, la salpêtrière, on invente l'hystérie.
C'est ça.
Et c'est très fort parce que l'hystérie, vu que c'est l'utérus, hein, c'est l'étymologie.
L'hystérie,
c'est l'utérus. L'homme est complètement préservé de la chose, vu que l'homme n'a pas d'utérus. Et d'ailleurs, dans ces périodes-là où on commence à montrer ces femmes agitées, il y a des questionnements en disant, bah, regarde, il y a quand même quelques hommes qui sont un peu particuliers, agités. Alors là, on va dire, c'est normal, ils sont efféminés. Allez, affaire réglée. Vous voyez, donc on voit bien que ces préjugés, ils traversent les siècles et ils sont très forts parce que là, c'est évidemment la domination des hommes sur les femmes.
J'ai pas compté le nombre de chapitres.
Il y en a 57.
Il y a 39 historiens qui ont travaillé dessus. Le fait d'utiliser des historiens, ça vous donne une certaine légitimité à dire, attendez, c'est pas que moi qui le dis, c'est des historiens.
Oui, c'est vrai qu'on est tous spécialistes d'un sujet. Moi, j'en ai écrit un texte sur les intellectuels. On connaît certains sujets, donc c'est formidable d'étudier cet objet d'étude. Il est possible de travailler après en posant toute la littérature à plat et en travaillant. Mais avec Jeanne Garou, ce qui nous a semblé le plus efficace, c'est de demander aux spécialistes. Et je vais vous donner un exemple comment ça s'est passé sur les Juifs. Mmh. Sur les Juifs, pour moi, l'évidence du préjugé, c'est les Juifs et l'argent. Bon, en gros, c'était ça. Les Juifs et l'argent, ou les Juifs contrôlent les médias. Et on va voir Katel Berthelot, qui est une grande spécialiste du judaïsme dans l'Antiquité. Et elle nous dit, je ne suis pas sûr, moi. Elle dit, bon, ça, c'est vrai, bien sûr, mais c'est récent. Les Juifs et l'argent, c'est le Moyen-Âge, c'est quand les Juifs ne peuvent plus posséder de terres, donc ils sont obligés de faire du commerce, de l'usure, et donc on associe à l'argent.
Et que les chrétiens, eux, ne pouvaient pas faire de profit.
Les chrétiens, eux, n'ont pas le droit de faire de profit parce que c'est joué avec le temps, et le temps n'appartient qu'à Dieu. Donc, Katel Berthelot nous dit non, il y a quelque chose qui remonte à l'Antiquité, qui est autre chose, c'est un autre préjugé, c'est les Juifs vivent entre eux, ils sont soudés entre eux, et ça, on le retrouve dans l'Antiquité. Et en vrai, quand on réfléchit, le préjugé sur l'argent ou sur les médias, il découle aussi. Ils sont solidaires entre eux. Et c'était très fort de voir comment une historienne de l'Antiquité se saisit de cet objet. C'est simple, dans un monde polythéiste, où il y a plein de dieux, vous avez une anomalie. Ces juifs qui n'ont qu'un dieu, le monothéisme. Et vous savez, ce qui soude l'Empire romain, c'est le culte impérial, pour le simplifier, c'est-à-dire faut rendre le culte à l'empereur. Et les Romains, ils sont quand même hyper tolérants, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent quelque part, ils regardent les dieux du coin, ils disent « Oh, celui-là, il s'appelle comme ça, mais c'est Zeus, quoi. »
C'est pareil.
Ouais, c'est pareil, c'est le même, allez. Et puis, il faut rendre culte à l'empereur. Et les Juifs veulent pas, ils disent « Mais en gros, c'est pas grave, faites-le, faut aller brûler un truc et tout, c'est-à-dire non, on ne peut pas monothéiste. » Et ben là, on voit un truc qui apparaît qui... Ils sont entre eux, ils sont toujours entre eux. Et ça, c'est vraiment né dans l'Antiquité. Et après, ça ne cesse jamais.
Ce qui est curieux, c'est que ça aurait pu arriver aux chrétiens, mais non.
Non, c'est sûr que cette idée-là, on est, j'ai envie de dire, avant Saint Paul. C'est-à-dire qu'avec Saint Paul, c'est d'un seul coup, ça se diffuse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être chrétien. Il y a cette idée, mais qu'on retrouve encore au XXe siècle. Et on le voit très, très bien au moment terrifiant de la Shoah et de toutes ces lois antisémites, c'est qu'on ne peut même plus sortir du judaïsme. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, certains ont découvert qu'ils étaient juifs. des gamins qui ne savaient pas du tout qu'ils étaient juifs, on leur a mis une étoile jaune. Les parents avaient oublié qu'ils étaient juifs. Et vous voyez, cette idée de lier complètement un groupe humain à une religion, un peuple, c'est compliqué, J minuscule, J majuscule pour juif, c'est le fruit de ce très vieux préjugé.
Il y a malgré tout, j'avais très envie de vous le dire et j'hésitais, est-ce que je vous le dis, je vous le dis pas, mais il y a un chapitre qui m'a un peu gêné.
Alors lequel ?
Je vais être franc, c'est surtout donc sur 50, les immigrés veulent islamiser l'Europe. Mmh. C'est pas le sujet qui me gêne, c'est que j'ai trouvé que c'était le chapitre le moins historique et le plus politique d'aujourd'hui. C'est ce qui m'a gêné dans ce livre d'histoire, qui est un livre d'histoire.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'en travaillant sur cette question-là, nous, on voulait faire écho à l'ensemble des préjugés. Donc, je vous ai dit, par exemple, ça ne concerne pas que des gens ou des groupes humains. On a les animaux, ouais, le cochon, etc.
Il y a des trucs très drôles hein, aussi.
Oui, bien sûr. Et ça ne concerne pas uniquement qu'une vision française. On a des préjugés entre des peuples lointains. Entre les Anglais et les aborigènes, ça nous échappe complètement, on n'y comprend rien. Mais c'est, enfin, on n'y comprend rien, on comprend en lisant le texte. Mais c'est des préjugés, on se dit, mais pourquoi ils sont là ? Et il y en a d'autres qui sont au cœur de l'actualité et du questionnement. Et c'est vrai que sur cette notion d'islamiser, c'était comment on pouvait approcher cette question-là, qui est vraiment au cœur de l'actualité. Hein. Et on l'attaque par deux biais. Il y en a un, c'est les Arabes sont violents.
Oui.
Et l'autre, c'est les musulmans veulent islamiser l'Europe. Et effectivement, on se rend compte, en lisant, je vois très bien ce que vous voulez dire là-dessus, que c'est tellement prégnant dans l'actualité que le recul historique est plus difficile.
Non, c'est pour ça que je disais, c'est pas tellement le sujet, c'est la façon dont c'est dit qui est moins historique en réalité.
Oui, parce que c'est vrai que souvent, les historiens ou les historiennes qui ont bossé vont chercher la trace première ancienne possible. Et là, on va dire qu'il a fait un saut dans le temps.
C'est ça.
Et qui arrive à des considérations beaucoup plus proches de nous.
Mais ça pourrait mériter un bouquin, en fait, ce chapitre. Lui, tout ça.
Mais j'ai presque envie de dire chaque préjugé, ce serait un livre. Mais en gros, l'idée, c'était aussi que comme il y avait le préjugé, les Arabes sont violents, qui quelque part correspond plus ou moins à ça, on va dire qu'il faut lire les deux chapitres de suite.
Oui, effectivement. Il y a un autre chapitre sur les banlieues, par exemple, où là, c'est plus intéressant, plus historique, parce qu'il y a toute l'étymologie du mot banlieue, d'où ça vient, du
faubourg, zone.
La zone, etc. Et c'est en ça que celui-ci m'avait gêné. Donc, je savais pas si... Est-ce qu'il y a des préjugés que vous avez écartés d'emblée en disant, non, celui-là, il est trop ceci ou pas assez celui-là ?
Non, en vrai...
C'est le tome 2 ?
Oui, c'est ça. Quand on a commencé à bosser avec Jeanne Guérou, on s'est dit, on va lister les préjugés. Alors, on commence. Puis ça n'arrête jamais, quoi. On n'en finit plus. Et puis, on contacte les différentes personnes. Et là, ça continue à gonfler. On n'y arrive pas. Et c'est là où on s'est dit, non, on arrête. Et on va faire des préjugés suffisamment différents pour couvrir l'ensemble de ce que peuvent être les préjugés. Parce que, étonnamment, dans cette histoire des préjugés, il n'y a rien sur les Belges, il n'y a rien sur les Suisses. Ce qui pourrait être une faute professionnelle, quand même, on pourrait le dire. Mais voilà. Mais non,
j'ai même pas pensé.
Mais ouais,
c'est tellement vrai en plus.
Et, attendez, allons plus loin. Il n'y a rien sur les préjugés régionaux. Il n'y a rien sur les Bretons, sur les Normands, les Basques et les Corses.
On pourrait faire 50 tomes, en fait.
Oui, 50 tomes. Après, on s'est dit, c'est parce qu'on veut continuer à aller passer des vacances, si jamais on en a envie, dans certaines îles. Donc, on ne va rien faire.
Le pragmatisme.
Non. Voilà, non, c'est vrai que c'était assez perturbant de se rendre compte qu'il y en avait autant. Et l'idée, c'était de créer un équilibre pour avoir un panorama à peu près complet de ce que sont ces préjugés.
Est-ce qu'il y a un message général ? En gros, tout ce que vous pensez, c'est de la merde. Pardon.
Non, parce que vous avez commencé comme ça. Et vous avez raison, il y a un fond de vérité. Il y a toujours un truc, sinon ça n'existerait pas.
On a le droit de pas être d'accord.
Mais bien sûr, non, mais il y a toujours un élément, et c'est en ça que c'est pervers. Là où il faut se méfier, c'est comment nous-mêmes, on est pétris par ces préjugés. C'est-à-dire, au moins arriver à distinguer qu'il s'agit d'un préjugé qui a une histoire. Vous voyez, et c'est en ça que c'était un petit peu complexe. Je vous donne un exemple. L'UNESCO, c'est une journée consacrée aux luttes contre les discriminations et le racisme, me demande d'intervenir. Donc l'UNESCO, la méga salle de l'UNESCO, 1500 personnes, des tonnes de lycéens transmis dans 26 pays, le truc énorme. Et moi, je raconte pour commencer une anecdote, 17e siècle, c'est le roi Louis XIV qui fait venir un prince à Nabia, enf on est vers le Bénin actuel, si vous voulez. C'est un prince, il le fait venir. Le gamin est baptisé avec, pour la cérémonie, Bossuet, et pour parrain, Louis XIV.
La classe.
C'est la classe quand même. Hein. Et après la cérémonie, Louis XIV dit à Nabia, maintenant il n'y a plus de différence entre nous, sinon que vous êtes noir et que moi je suis blanc. Et moi j'utilise cette anecdote pour dire, ce racisme qui existait au XVIIe siècle, hein, le code noir, tout ça, on le connaît. Il y a un racisme de Louis XIV, mais qui n'est pas le racisme scientifique qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Louis XIV, un prince, même noir, reste un prince. Alors qu'on sait qu'à la fin du 19e, avec le racisme scientifique, noir, c'est foutu. Même prince, c'est foutu. Et donc, j'explique ça. Bon, l'idée ne me paraissait pas complexe. Et il y a une intervention d'une lycéenne qui me dit, tout à la fin, hein, donc l'intervention d'une heure, elle dit, oh, vous avez commencé en disant que Louis XIV n'était pas raciste. Alors je dis, non, je n'ai pas dit ça. Je dis, c'est une autre forme de racisme. Le racisme, c'est un objet culturel, ce n'est pas une évidence. Et elle n'a pas voulu en démordre. Et je me suis dit, c'est très intéressant parce que ça veut dire, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la contextualisation? Et pour certains, certaines, c'est pas évident encore. Donc je dis, il y a un boulot énorme encore à faire. Au moins comprendre que tous ces préjugés, mais tout ce qui nous entoure, c'est le fruit d'une évolution historique, d'un contexte particulier. Ça s'adapte à un autre contexte. Et c'était vraiment ça. Si moi j'ai quelque chose à ressentir de ça, c'est, j'identifie mon préjugé. Ah, ça j'avais pas aimé, ça c'est un préjugé. Il faut être cash hein, quand on lit, regardez sur les réseaux sociaux, quand vous avez une information, il y a une agression. Si le prénom de l'agresseur est à consonance maghrébine, regardez les commentaires, les gens vont dire, ah ben c'est logique. C'est logique, et là c'est ce vieux préjugé, les Arabes sont violents. Non, essayez déjà d'identifier le préjugé, et puis après de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi on en est arrivé à ce préjugé-là. Et il y a une utilité, je vous disais, sur les préjugés. Donc, quelle est l'utilité de ce préjugé? Ce serait ça. C'est, je vais vous dire honnêtement, avec Jeanne, ce qu'on veut pas. On aimerait bien qu'avec ce livre, il n'y ait plus de préjugés dans le monde. Mais on a quand même une certaine conscience de la chose et on pense que ça ne va pas tout arrêter. Mais au moins, si ça peut faire réfléchir, c'est peut-être un peu ça, en fait, l'idée du livre. C'est
ouais,
on réfléchit,
message,
ouais. On réfléchit, ouais. Réfléchissons.
D'accord. Est-ce que c'est grave? J'ai l'impression, d'ailleurs, dans votre intro, vous parlez du mot qui est à la mode, stigmatisation, qu'on entend partout. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui a la trouille de tout? Vous citez dedans un des préjugés, les blancs sentent la mort et les noirs... Moi, je me souviens, quand je jouais au foot, j'avais un pote qui me disait, tu sens la mort. Ça ne m'a pas tué. Je ne me suis pas dit, quel raciste, quelle horreur.
Ah, vous avez parfaitement raison.
Alors, une fois, je suis vieux, c'était il y a longtemps.
Non, mais il y a plein de préjugés qui ne posent en soi aucun problème. Et puis après, quand on prend ce recul historique, on se rend compte que ces préjugés ont clairement conduit à la mort des dizaines de millions de personnes. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage, c'est l'histoire des préjugés, parce qu'il fallait bien trouver des arguments pour arracher des gens de leur village. Pas les Européens, hein. Bien souvent c'était à l'intérieur même de l'Afrique, des rois africains qui arrachaient des gens de leur village, qui les déplaçaient, ou alors cet autre esclavage...
Mais ils étaient de la même couleur.
Ils étaient de la même couleur.
Ou
cet autre esclavage qu'on oublie bien souvent, c'est cet esclavage maghrébin sur l'ensemble de l'Afrique, parce que l'esclavage dans l'océan Indien était absolument gigantesque.
Absolument.
Il fallait bien des arguments. Donc ces préjugés-là ont servi d'arguments. J'évoquais la Shoah tout à l'heure, je ne développe même pas. Ça a été utilisé comme préjugé. Et puis après... au plus près des gens. On évoquait les femmes. C'est fou de voir cette domination complètement intégrée, ce préjugé d'incompétence. Et quand on est entre nous, là, je peux vous donner cet exemple précis que je vis au quotidien dans mon émission, le cours de l'histoire, France Culture, tous les jours, 9h.
Eh ben, c'est gratuit.
Placement de produit. Il est plus dur de trouver des invités femmes que des invités hommes. Parce que déjà les femmes, vous enlevez toutes celles qui vont vous dire « je peux pas parce que moi j'ai les enfants à accompagner à l'école ». C'est extrêmement rare et quasiment jamais qu'un homme vous dise ça. C'est très souvent qu'une femme va vous dire « je suis pas vraiment légitime ». Mais si je suis légitime, un homme, il va vous dire oui tout de suite. Je me souviens j'avais besoin de quelqu'un spécialiste des vikings, elle avait fait sa thèse sur le commerce viking, etc. Et nous on voulait faire les dieux, elle avait un chapitre entier sur les dieux du commerce. Elle dit « je suis pas sûr d'être vraiment légitime ». Mais si, vous allez utiliser 0,01% de vos connaissances. Et puis après, mettons-nous directement en studio. Le rouge s'allume, on est en direct. Mes invités femmes citent l'autre invité homme, citent la bibliographie des collègues. Les hommes, beaucoup moins souvent. mais beaucoup, beaucoup moins souvent. Et c'est quelque chose que vraiment je n'aurais jamais imaginé, et on en parle, hein, c'est que cette domination, même chez des universitaires, des gens extrêmement éclairés, a été intégrée. Je suis moins compétente. C'est un truc de fou. Et là, j'ai vu de manière très concrète comment fonctionnaient ces préjugés. Parce que pour s'en défendre, c'est un grand classique, on adopte ce préjugé. Mmh. Vous avez, on parlait des Noirs, etc. Dans l'histoire, vous avez plein de Noirs qui ont joué le rôle des Noirs. Ils étaient plus noirs que ce que l'on attendait des noirs pour correspondre aux attentes, parce que comme ça au moins ils échappaient aux préjugés en l'assimilant. Eh bien, pour les femmes, encore aujourd'hui c'est ça. Donc je suis vraiment d'accord avec vous, hein. C'est vrai qu'il y a cette petite chose et il y a l'enfer de ce que ça peut représenter, ce qui conduit jusqu'à la mort, parce que certains utilisent ça encore. La question là-dessus, c'est comment on fait ? Parce qu'un des vecteurs des préjugés, un des plus forts, au-delà de la littérature, du cinéma, c'est l'humour. Les bonnes blagues, ouais. Bah, on l'a tous vu. Et il y en a qui sont particulièrement drôles.
Les bah, qu'est-ce que j'ai fait au d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Le film joue sur ses préjugés. Et moi, ça me met particulièrement mal à l'aise. Rabbi Jacob, très bon exemple. Ça me met mal à l'aise au sens où on ne va pas effacer ça. C'est notre patrimoine, c'est notre culture. Mais comment on fait pour que ce soit compréhensible et assimilable ? Ben, y a que l'intelligence, en fait. Il n'y a que la réflexion, culture, la culture. Et quand on regarde Rabbi Jacob, être comprendre que ce n'est pas antisémite du tout. Au contraire. Et que c'est une blague bien placée avec un bon public, savoir à quel moment on raconte quelque chose à quelqu'un et à quelle destination. Voilà, quel objectif, bah, ça permet de tout relativiser. Mais c'est vraiment un questionnement complexe, je vais vous dire. Si jamais c'était facile de lutter contre les préjugés, il n'y aurait plus de préjugés. Dans la vie, ce qui est simple, on le fait. Si c'est toujours là et aussi complexe, bah, c'est que c'est compliqué.
Effectivement. Ouais. On est à Versailles. La France, c'est le pays de l'étiquette.
Ouais.
Les préjugés, c'est des étiquettes.
Oui. Oui, mais alors là, faudrait faire venir un psychologue et un psy. Non, mais je vous assure, parce qu'en fait, les préjugés, ils sont hyper importants.
Ben oui.
Pour comprendre le monde. C'est complexe, le monde, c'est vaste et tout. Et c'est vrai qu'on a créé ces étiquettes pour comprendre le monde le plus rapidement possible. Et que Sabine Dulin étudie, les Russes ont besoin d'un homme fort. Ce préjugé-là, l'actualité nous l'a montré, mais à un point, il est même plus discuté. Et c'est terrible, ça, parce que même moi, je suis victime, on est tous victimes de ce préjugé parce qu'on attend que ça. Les Russes ont besoin d'un homme fort, c'est comme ça. Et hey, les Japonais sont travailleurs. Vous voyez, mais c'est la construction intellectuelle. Le cerveau ne peut pas assimiler tout ça. Donc, il va faire des catégories et puis ces catégories vont avoir ces étiquettes. Donc, il va y avoir des peuples avec une étiquette pour savoir ce qu'ils sont. C'est le principe de la colonisation. Quand les Belges arrivent et colonisent sur les ethnies, ils leur mettent des étiquettes. Les Hutus sont comme ça, les Tutsis sont comme ça. On voit à quoi ça a conduit. Donc, c'est en ça que au moins l'identifier, au moins comprendre, c'est déjà une bonne étape.
Et les Brésiliens jouent bien au foot, sauf quand ils font du poker et qu'ils sortent en boîte. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, on n'a pas beaucoup de temps, il faudrait une question maximum. Est-ce qu'il y a un préjugé sur lequel vous vous êtes dit, tiens, moi je pensais vraiment ça ?
C'est une très bonne question, ça. C'est une très très bonne question. Je pense que c'est celui qui concerne le cochon. Préjugé étudié par le grand Michel Pastoureau. Les cochons sont lubriques. Pas du tout. Pastoureau nous dit, c'est à partir du XVIe siècle et de la Renaissance que les cochons deviennent cochons. C'est-à-dire qu'avant, jamais on aurait fait un hashtag « balance ton porc ». On aurait fait un hashtag « balance ton chien ». C'est-à-dire que de l'Antiquité à la Renaissance, c'est le chien qui est lubrique, vicieux, c'est du sexe, le chien. Mais à la Renaissance, le chien devient le meilleur ami de l'homme. C'est l'animal de compagnie. L'animal de compagnie ne peut pas être vicieux. Il faut bien trouver un remplaçant. Et on prend, étonnamment, celui qui, génétiquement, est le plus proche de l'homme, le pauvre cochon qui n'avait rien demandé, qui était là tranquille. Et là, ça y est, c'est terminé. C'est le porc. Mais en plus, il y a un côté très européen-français avec ce porc-là. Parce que le balance ton porc, il n'est pas compréhensible partout.
Ailleurs.
Ouais. Donc, celui-là, voilà, ça, c'est un exemple de préjugé de construction intellectuelle et historique qui nous amène à un truc aujourd'hui, alors que je vous dis, il y a quelques siècles, c'était absolument pas ça.
Le chien et le loup, ça a donné lupanard.
Eh oui, donc, exactement.
Voilà, tout est réuni. Xavier Mauduit, mesdames, messieurs, Histoire des préjugés, achetez-le. Si vous voulez comprendre, c'est la culture.
Merci vivement, Xavier. À vous. Merci beaucoup. Merci.